Transmisogynie, c'est sur les trans ou rien à voir?
Qui sont en milieu sportif.
Exactement.
Ah, mais ça, c'est compliqué le sujet avec les compétitions, les problèmes hormonaux, ce qu'ils ont vécu avant la transition. Trop compliqué comme question. Ah, bonne journée.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, une émission que nos fans qualifient de joyeusement éclectique et nos détracteurs de bric-à-brac wokiste. La vérité est certainement, comme souvent, entre les deux. Mais j'entends les critiques car cette semaine, on sera quand même passé d'une émission sur Patrick Sébastien qui s'est achevée avec une queue leuleux naturiste avec Manon et Quentin qui chantent en chœur.
Et on était au rythme.
Ouais, à une émission aujourd'hui sur la transmisogynie dans le sport, un sujet totalement absent du répertoire de Patrick Sébastien. Pour faire simple, vous connaissez la misogynie?
Ouais.
Évidemment, vous travaillez avec Pierre Courade. Eh bien, la transmisogynie, c'est quand des gens plutôt conservateurs, parfois trumpistes, cumulent à la fois la transphobie et la misogynie. Et quand on l'applique au sport, c'est pour dénoncer les performances des athlètes transgenres dans les compétitions féminines. Ils estiment qu'être né homme, biologiquement parlant, évidemment, leur donne un avantage injuste et qu'il faut les empêcher de concourir. Ont-ils raison? Cyril Lacaire, notre rédacteur en chef fan de J.D. Vance, pense que oui. Moi, je pense a priori que non. Mais je comprends les interrogations sur l'équité qui se posent. Voilà pourquoi, au lieu de balayer le sujet d'un revers de la main, en disant comme Cyril, les gonzesses d'un côté, les bonhommes de l'autre et Dieu pour tous, j'ai préféré consacrer à cette question une émission avec une spécialiste. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Anaïs Bohuon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Anaïs, vous êtes professeure des universités en sociologie et histoire du sport à Paris-Saclay. On vous avait reçu déjà dans Zoom Zoom en mai 2024 pour votre livre « Les tests de féminité dans les compétitions sportives » qui était paru aux éditions XE. Si on vous retrouve aujourd'hui, c'est que plusieurs affaires de transmisogynie secouent le milieu sportif depuis quelques mois. À quoi correspond ce terme? Quelles sont les répercussions dans les compétitions sportives? C'est ce que vous allez nous expliquer. Juste le temps de vous présenter les deux seules personnes pour qui aujourd'hui, dans notre expression transmisogynie dans le sport, le terme le plus compliqué, le plus mystérieux est sport. L'absence totale d'exercice physique et le désintérêt assumé pour le sport est leur principal point commun, avec leur détestation évidemment de Pierre Courade. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Solidaire.
Manon, vous, le sport, vous avez essayé timidement, furtivement, et vous avez essayé finalement entre le pilate et vous, ça n'a pas collé.
Mais si, ça marchait très bien. C'est juste que je n'ai pas repris depuis le début de l'année. Mais dès mardi prochain.
Vous comptez vous y remettre.
Oui, cuisse abdos fessiers, c'est reparti.
Ça fait 3 semaines qu'on a repris.
Oui.
Non mais ça va, vous pouvez me laisser un peu de temps.
Ah oui, vous mettez une grosse pression là que vous-même. Vous
oui,
je vais 1h30 de marche par jour.
Non,
très bien.
Ça j'y crois pas.
Manon...
Faites du surplace à République. Oui.
Dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Le comité olympique et paralympique américain, car c'est aussi à cause de lui que les athlètes transgenres féminins ne pourront plus participer aux Jeux olympiques.
Face à vous Anaïs, il ne prend pas soin de son corps, en revanche, il prend soin de son véhicule. Ouais. Chaque soir, Quentin fait partie de ces Parisiens qui bâchent leur scooter. Officiellement, pour éviter de se le faire rayer, officieusement, personne n'est dupe pour masquer sa plaque d'immatriculation et ainsi échapper aux amendes. La malhonnêteté m'étant insupportable, je vais donc vous donner la plaque du scooter de Quentin.
Ça va pas, non.
LABU69CHE, oui, la bûche 69. Quentin, chaque après-midi, vous faites réagir les passants à notre thème du jour. Alors, la transmisogynie dans le sport, ça leur inspire quelque chose?
Sujet touchy, sujet sensible, je sens qu'on peut vite marcher sur des œufs quand on parle de ce sujet. L'équité à tout prix dans le sport, les enjeux de notre époque, tout ça fait réagir dans ce micro-trottoir, vous l'entendrez, complètement à la rue.
Vers 16h30, il aurait fallu un génie pour réussir à concocter un quiz rieur sur la question grave de la transmisogynie. Hélas, vous n'avez pas un génie, vous m'avez moi. Le Zoom Zoom Test fera donc un pas de côté, voire un grand écart facial en partant à la découverte des disciplines olympiques disparues. La cinquième va vous étonner. Juste avant 17h, le jeudi, vous retrouvez désormais Lisa Perriot. Après 17h, restez avec nous, on zoomera sur la décision de Donald Trump de fermer le robinet de l'aide humanitaire. Pas la moindre de ces conneries. Mais d'abord, Anaïs Bohuon, la transmisogynie a-t-elle toujours existé dans le sport ou c'est malheureusement assez nouveau?
Alors, elle a toujours existé dans le sport pour la simple et bonne raison que les personnes trans ont toujours existé dans la société, mais dans le sport également. Mais je pense qu'il faudrait définir d'abord la transmisogynie.
Mais vous savez quoi? On va certainement commencer par là. Il y a bien des manières de présenter notre rédacteur en chef, mais une seule est capable de rendre hommage à la globalité de son talent protéiforme.
Cyril Lacarrière.
Cyril Lacaille.
Ouais. Franchement, c'est bien. Hein.
Ah ouais. Il est Lacaille News.
Il est Ah, je t'avais oublié la suite.
Il est C.
Allez, c'est... Vous voulez qu'on l'écoute sur la longueur?
Oui, attendez.
Là, c'est mieux.
Vous avez enregistré dans mon tour.
Il est Lacaille.
C'est bien.
Mais attendez, parce que c'est pas maintenant Lacaille News. Donnez rendez-vous aux auditeurs à 17h30.
Il est Lacaille News, mais il est aussi d'où ça sort.
Voilà.
Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors c'est vrai, ça, prenons les choses dans l'ordre. La transmisogynie dans le sport, d'où ça sort?
Imaginez un stade de lycée en Californie, nous sommes en mai dernier. Il fait plus de 38 degrés, du monde dans les tribunes et une drôle de tension, surtout pour une simple compétition régionale. Une jeune athlète de 16 ans prépare ses trois épreuves, saut en hauteur, saut en longueur et triple saut. Elle vient du lycée de Jurupa Valley. Elle va remporter la hauteur, la longueur et finir troisième du concours de triple saut. Et pourtant, chaque fois, elle va devoir partager sa place sur le podium avec la fille arrivée derrière elle. Je vous présente Abbé Hernandez, et c'est en lisant son histoire cet été que nous avons eu envie de faire cette émission.
Alors redonnez-nous le contexte, Thierry.
Abbé Hernandez est pratiquement imbattable, c'est ce qu'avait dit et déclaré Donald Trump. Il voulait même qu'elle soit interdite de participer aux épreuves, menace à l'appui. La raison à tout ça, en fait, c'est que Abbé Hernandez est une athlète transgenre. Et à ce titre, bien plus qu'une simple jeune sportive, elle est devenue le symbole d'un débat national aux États-Unis. Ce jour-là, dans le stade, il y avait des manifestants conservateurs venus avec des pancartes « Save Girls Sport », sauver le sport féminin. Ils avaient même loué un avion qui a survolé l'enceinte avec une bannière où on pouvait lire « No boys in girls sport », pas de garçons dans le sport féminin. Abbé Hernandez, elle, raconte que ça fait 3 ans qu'elle participe aux épreuves féminines et que cela n'a jamais posé le moindre problème, en tout cas jusqu'ici. Cela fait plus de 10 ans que la Californie autorise les femmes transgenres à participer aux compétitions féminines, mais ça c'était avant le retour de Donald Trump au pouvoir. Alors d'où ça sort la transmisogynie dans le sport? Eh bien en voici un exemple, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Anaïs Boyan, pour qu'on soit clair dès le départ, peut-être même sur les règles, c'est quoi la règle pour qu'une personne transgenre puisse participer à une compétition sportive?
Alors, pour qu'on soit clair, dès le départ, j'ai vraiment, je souhaite vraiment pas du tout gâcher votre émission, pour être honnête, parce que je l'adore.
Ah.
Mais je tiens à rappeler qu'on va faire une émission qui concerne environ 0,33% de la population générale. C'est issu du dernier recensement canadien en 2021. Donc, en France, ça correspondrait, de personnes trans et ou non binaires, donc en France, ça correspondrait à 180 000 personnes sur 68 millions. Donc, j'aimerais bien qu'on pose cette idée et qu'on ait l'ordre de grandeur de la communauté trans en France, et je vous laisse imaginer le chiffre quand on accède au sport de haut niveau. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que je suis souvent extrêmement surprise par le fait de la panique, enfin par la panique morale que la participation des femmes trans génère. Et je veux répondre aussi sur la transmisogynie, parce que je voudrais dire à toutes les femmes qu'on va être un jour concerné. Pourquoi je vous dis ça? Récemment, là, si vous avez suivi les dernières informations, Yosha Iglesias a gagné les championnats de France d'échecs. Là, je sais plus, je crois que c'était le week-end dernier. Et une personne qui est célèbre, je ne vais pas citer son prénom, uniquement pour sa transphobie sur les réseaux sociaux, a jugé la victoire de Yosha Iglesias injuste parce que c'est une femme trans. Donc ce que je voudrais dire aux auditeurs, aux auditrices, c'est, et à toutes les femmes qui écoutent, c'est que bah, finalement, les femmes, on est connes. Hein, on est bêtes parce qu'on n'est pas en mesure de pouvoir rivaliser contre les hommes. Donc pourquoi je vous disais ça? C'est que cette transmisogynie, elle risque un jour de rattraper tout simplement toutes les femmes cisgenres, donc les femmes non trans, et les femmes dyadiques, donc non intersexes. Donc je voudrais vraiment alerter là-dessus.
Mais c'est pas qu'un risque, parce que là, aux États-Unis, depuis le retour de Trump, il y a des conséquences directes. Quelques semaines après la double victoire de Abbé Hernandez, dont nous parlait Cyril au championnat californien, le comité olympique américain a exclu les femmes transgenres des épreuves féminines. C'est un retour en arrière net et précis.
Absolument. C'est une négation de la transidentité. Mais comme Cyril l'a dit tout à l'heure, pour répondre véritablement à votre question, en 2003, il y a le consensus de Solcom du CIO.
Qu'est-ce qui dit ce consensus?
Alors voilà, ça c'est intéressant. En 2003, il autorise la participation des femmes trans qui prennent une hormonothérapie féminisante, donc les hormones dites féminisantes, et qui ont réalisé des chirurgies de réassignation sexuée. Puis il y a une évolution, une réelle évolution en 2015. Le consensus du CIO supprime les opérations, il ne les rend plus nécessaires, mais elles doivent présenter un taux de testostérone de dynamomol par litre de sang pendant les 12 mois qui précèdent la compétition. Puis, on va le voir, 5, 2,5, et aujourd'hui, certaines fédérations les excluent complètement. Pourquoi ? Parce que le CIO a, en 2021, suite au JO, émis, et ça, il faut le savoir, c'est important, un cadre, je cite, sur l'équité, l'inclusion et la non-discrimination sur la base de l'identité sexuelle et de l'intersexuation. Il a demandé aux fédérations internationales d'avoir une approche respectueuse des droits humains, de l'inclusion, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les fédérations internationales font leur propre règlement et durcissent les règlements. Et on est en plein dedans aujourd'hui, si vous avez vu l'actualité, là aujourd'hui, depuis le 1er septembre 2025, la Fédération internationale de l'athlétisme remet au goût du jour, les tests génétiques SRY pour tout simplement interdire les femmes qui auraient un Y chromosomiquement, parce qu'il y a des femmes qui sont XY, et finalement, c'est à mon sens les femmes trans qui sont directement ciblées.
Donc on est dans un backlash assez important, c'est cette dernière année, quoi.
Terrifiant. Et puis, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le dire, mais j'aimerais vraiment dire que on parle là de femmes que moi je rencontre au quotidien qui ont sacrifié leur vie pour accéder au sport de haut niveau ou aux échecs, qui ont des carrières brisées, qui vivent des cyberharcèlements, qui sont tuées, qui sont rejetées, qui sont humiliées, alors que on parle de
une infime.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Plus compliqué qu'être simplement transgenre, entre guillemets, être un athlète transgenre. La professeure en sociologie et histoire du sport à l'université Paris-Saclay, Anaïs Bohuon, est toujours avec nous pour évoquer le problème de la transmisogynie dans le milieu sportif. Anaïs, en début de semaine, on apprenait que la boxeuse algérienne Imane Khelif, qui avait été au cœur d'une polémique pendant les JO de Paris par rapport à son genre, contestait les tests de féminité que lui impose désormais la Fédération internationale de boxe. Elle a déposé un recours devant le tribunal arbitral du sport. Est-ce que ce genre de procédure est amené à se multiplier?
Alors absolument, et sûrement, parce que ça a déjà été le cas dans l'histoire du sport, notamment avec l'athlète indienne en 2014, qu'on a tendance à oublier, Duti Chand, qui a saisi le tribunal arbitral du sport en 2014. Pourquoi ? Parce que c'est leur seul recours. C'est leur seul recours pour pouvoir essayer de se battre, obtenir justice et respect de leurs droits, le droit de concourir avec des caractéristiques chromosomiques et ou sexuées atypiques, de naissance, vraiment c'est important de le rappeler, endogène naturel, je ne sais pas comment le dire autrement. Après, il y aura sûrement, comme c'est le cas pour Caster Semenya, comme ça a été le cas pour Caster Semenya, le tribunal fédéral suisse, puis la Cour européenne des droits de l'homme. Mais très très tristement, systématiquement, elles perdent. Ça ne sert à rien, en fait, car au final, c'est toujours le CIO et les fédérations internationales qui ont raison et qui les excluent et qui brisent des carrières et des rêves.
Il faut peut-être revenir, parce qu'on l'avait fait dans la dernière mission qu'on avait fait ensemble il y a quelques temps maintenant, pour les gens qui nous écoutent, qui peuvent se dire d'un point de vue de bon sens, mais c'est vrai qu'au fond, une femme qui était avant un homme et qui donc a quelques dispositions, prédispositions physiques, masculines, c'est que souvent un homme est quand même plus musclé qu'une femme à la base, est-ce qu'elle n'est pas avantagée ? Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Quel est l'argument à opposer à ceux qui vous opposent cet argument de bon sens avec des gros guillemets ?
Alors, il faut quand même, comment dirais-je ? Il faut quand même, à mon avis, distinguer la question intersexe et la question trans. Hein. C'est pas la même chose, important. Caster Semenya, Duti Chand ne sont pas des athlètes trans, ce sont des athlètes qui ont des caractéristiques sexuées, chromosomiques, atypiques, et qu'on a désignées comme hyperandrogènes, qui produisent plus de testostérone que la moyenne des femmes. Les personnes trans, les athlètes trans, c'est autre chose, comme Abbé Hernandez et Lia Thomas ou Alba Diouf. Alors, je vous remercie parce que je crois que j'en ai marre qu'on pose la question des prétendus avantages. Parce que je voudrais poser la question aux auditeurs et aux auditrices, mais de quel avantage on parle, et surtout, dans quelle discipline ? Je vais préciser. Je voudrais mettre fin à l'idée selon laquelle réguler de prétendus avantages servirait à protéger la catégorie femme. Je pense qu'on est arrivé à un niveau, il ne faut pas être paresseux intellectuellement, on a le droit de questionner l'avantage biologique, l'avantage génétique, chez les hommes comme chez les femmes, chez les personnes intersexes comme chez les personnes trans. Pourquoi ? Parce que si vous vous intéressez au fonctionnement réel du sport de haut niveau, vous vous rendez compte que la performance sportive ne repose jamais sur un seul facteur isolé. On ne peut pas dire aucune étude scientifique ne parvient à démontrer que les femmes trans auraient un avantage. Ils les essentialisent, c'est-à-dire qu'il y a autant de femmes trans que de femmes cisgenres. Moi, je connais énormément de femmes trans nulles en sport, que j'éclate au squash. Et donc, ils essentialisent les femmes trans en partant du principe que comme elles ont été assignées hommes à la naissance, elles doivent éclater les femmes cisgenres. Mais c'est la même chose qui porte sur sur l'essentialisation des femmes cisgenres, on part du principe qu'elles sont nulles en sport et qu'elles vont se faire éclater par les hommes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut désessentialiser. Et la dernière chose, c'est qu'il faut arrêter de penser que la parfaite égalité des chances que le monde du sport prétend offrir est réelle. C'est illusoire. Si on veut une réelle égalité et une réelle égalité pour les femmes dans le sport, moi je propose que ceux qui seraient un peu perturbés par ce que je suis en train de dire rejoignent la lutte avec moi. Quelle est la vraie problématique pour plus d'égalité et de justice dans le sport des femmes? C'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je pose une question aux auditeurs et aux auditrices. Est-ce que vous avez été assez offusqués comme moi qu'il n'y ait pas eu de night session pour les femmes à Roland-Garros en 2024 là? Est-ce que, voilà, ça c'est des vraies questions. La problématique de la médiatisation, de la professionnalisation,
la visibilité, aussi.
La visibilité les violences sexistes et sexuelles. Donc si jamais vous rejoignez intellectuellement la panique morale vis-à-vis d'une ou deux femmes trans qui en plus, et ça c'est important de le dire, auront lutté contre la transphobie, les violences, la haine, les rejets familiaux, un jeune sur 5 ou 10, je sais plus, est éjecté de son foyer familial dès lors qu'il est trans, etc., parviennent à exceller au sport, dans le sport de niveau, ces femmes trans.
Arrêtons les emmerdes.
Voilà, c'est pas parce que ce sont des femmes trans, c'est des femmes exceptionnelles qui ont bravé tous ces interdits, ces rejets, ces humiliations et ces violences.
Anaïs, ce matin, on apprenait que les boxeuses françaises ne pourraient pas participer aux mondiaux de boxe qui se déroulent à partir de demain en Angleterre, parce que les organisateurs n'ont pas reçu à temps leur test de féminité dont on parlait tout à l'heure. Vous nous le disiez hors antenne, pour vous, c'est un drame national.
Alors, c'est devenu un drame national, mais moi, je ris un peu nerveusement. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions et que j'alerte au sujet de ces contrôles de sexe qui sont devenus des tests de féminité, puis des contrôles de genre. Pourquoi j'alerte ? Parce que je dis, attention, ils sont discriminants, ils ne visent que la catégorie femme et des femmes qui présentent des caractéristiques sexuées, chromosomiques, hors normes ou atypiques. Mais moi, j'alerte les femmes cisgenres, donc non transgenres, ça, voilà, les femmes diadiques, donc non intersexes, en leur disant vous allez être rattrapées un jour ou l'autre, et c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, on voit Estelle Mosselli, on peut la remercier, qui demande la démission des responsables de la Fédération française de boxe. Mais moi, ce que j'aimerais dire à Estelle, elle a raison, mais moi, j'aimerais que soient remis en cause majoritairement ces tests, dès lors qu'on est toutes aujourd'hui concernées. Là, on se pose la question de la problématique de ces textes qui sont plus que discriminants, misogynes et pathologisants et catastrophiques. Voilà.
Et vous, que vous inspirent ces diverses polémiques ? Comprenez-vous ces questions qui se posent autour de la participation d'athlètes transgenres dans des compétitions féminines ? Quentin, qui n'envisage pas d'autre sport que mécanique ou alors, comment dire ?
La bouilla !
Seul sport dans lequel il excelle. Voilà.
Je suis pas plus mauvais.
Oui, je vous ai fait une partie compliment.
Ah oui.
Il est allé vous poser la question.
Fin de matinée à Paris, un chantier qui prend fin et l'échafaudage qui se démonte petit à petit pour laisser apparaître une façade d'un blanc immaculé. C'est ici que je rencontre Sephora. Elle est médecin et elle découvre le sujet du jour dans Zoom Zoom Zen.
Transmisogynie dans le sport. De quoi on parle ?
C'est quoi la transmisogynie ?
Alors, misogynie, je connais. Transmisogynie, je connais pas. C'est pour ça.
Elle me dit qu'elle veut pas prendre le risque de dire n'importe quoi sur ce sujet sensible. Je lui explique en vulgarisant qu'une personne née homme, devenue femme après un parcours de transition, qui souhaite rejoindre une compétition féminine, eh bien, ça soulève beaucoup de questions en 2025.
Bah, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites avant la transition et après la transition pour comparer avec l'impédance métrique qui étudie la composition corporelle en muscle avant et après la transition. Parce que si ça a été fait et qu'on démontre que avant la transition, on avait par exemple 60 kg de muscle et après la transition, on tombe à 35, dans ce cas-là, le compteur est entre guillemets remis à zéro. Mais si on ne perd pas autant, qu'on perd un peu, mais qu'on reste au-dessus de la moyenne des sportives femmes, nées femmes, donc à ce moment-là, c'est discutable.
Je salue Sephora et je croise Michael, qui lui est à la retraite d'une carrière de consultant international en économie. Une belle veste à carreaux, les cheveux blancs mi-longs, le foulard à motifs rouges, il découvre...
Non, transmisogynie dans le sport, absolument aucune information. Le fait de ne pas être misogyne, peut-être ?
Si, c'est le fait d'être misogyne, mais avec les femmes trans.
Ah, les femmes trans, ah bon ? Ça, je ne connais pas les femmes trans.
Il grimace, même quand il comprend de quoi on parle. Je ne pensais pas que le sujet serait si sensible.
On nage dans une période de wokisme qui, pour moi, est incompréhensible. Tout ce qui est transgenre, c'est wokisme. Tout ce qui est... Je pense que c'est une mode qui va passer.
Passent devant nous maintenant deux joggeurs que j'attrape au vol. Ils veulent bien me répondre, mais ils ne veulent pas s'arrêter en plein effort, alors je trottine à côté d'eux.
Transmisogynie ? C'est sur les trans ou rien à voir ?
Ah, mais ça, c'est compliqué, les sujets avec les compétitions, les problèmes hormonaux, ce qu'ils ont vécu avant la transition. Trop compliqué comme question. Ah, bonne journée !
Mais tu veux savoir quoi sur notre avis?
Vous pouvez comprendre qu'on puisse se sentir désavantagé?
Oui, je peux comprendre qu'on puisse se sentir désavantagé quand on est une femme et qu'on est contre des femmes transgenres. Après, je peux comprendre aussi qu'en tant que femme trans, on ait envie de pouvoir faire de la compétition. Mais du coup, c'est un sujet assez complexe pour avoir une égalité, une équité en soi.
Alors quoi? Comment faire? Créer une catégorie trans?
Parce que créer une catégorie spécifique pour elles, c'est trop réducteur. Mais d'un autre côté, on peut pas les mettre contre des femmes biologiquement nées femmes. Parce que quand on regarde les sports de combat, etc., c'est des massacres. Donc on peut pas faire ça. Et on peut pas les mettre contre des hommes non plus, parce qu'aujourd'hui, ça sera des massacres dans l'autre sens.
Je reprends mon souffle, car ça fait longtemps que je ne cours plus. Je devrais m'y remettre, je sais, Cyril m'a même proposé des baskets qu'il tente de vendre sur Vinted. Et à neuf, porté deux fois.
Deux fois.
Si ce n'était pas en 43, je les aurais déjà aux pieds. Ma dernière rencontre, ce sont ces deux jeunes gens qui marchent côte à côte en se partageant un bout de parapluie. Elle porte un haut doré de grandes lunettes. Lui, il porte le parapluie et un t-shirt Tokyo Hotel.
Bonjour.
Bonjour.
Quels sont vos prénoms à tous les deux?
Mélissa.
Samuel.
Vous avez quel âge?
25 ans.
Bientôt 26. Transmisogynie dans le sport.
Ah bah oui, on connaît très bien là, avec la dernière affaire, oui.
Diman Kelly au JO et ses tests de féminité, à A.B. Hernandez, victime, elle, de transmisogynie, voire même de transphobie, ils ont cerné le sujet.
Entre une femme cis et une femme trans, il n'y a pas de différence, justement, il n'y en a plus de différence.
Oui, juste une fois que le parcours médical il est bien entamé, justement, il y a une atrophie des muscles, il y a les taux d'hormones qui se stabilisent, donc à partir de là, elles sont assimilables en matière de compétences. Pour moi, voire pour une femme trans, ce serait un nouveau cycle à reprendre parce que les cycles d'entraînement ne sont pas les mêmes pour les personnes nées femmes, nées hommes. Enfin, c'est des nouveaux entraînements à reprendre, donc je ne pense pas qu'il y ait au contraire un avantage dans la compétition.
C'est une nouvelle puberté en fait, en plus à assimiler, oui. C'est très dur.
Lui termine en disant que ça va un peu plus loin que ça.
Mais après, sur le sujet, on pourrait dire par exemple que ce mythe-là de l'homme qui ferait une fausse transition pour gagner dans les compétitions sportives, ça c'est totalement un mythe, c'est inventé et c'est une panique orale de l'extrême droite, quoi. Ça n'existe pas.
Et quel mec perdrait sa bite? Enfin, je veux dire, les mecs, c'est vraiment leur plus grande fierté au monde, c'est avoir une bite, quoi.
Je pense que les gens se rendent pas compte de la complexité du parcours et personne ne fait ça juste pour le sport et pour la gloire, quoi. C'est des parcours très longs, très infantilisants, voilà, médicaux, sociaux, même judiciaires, parce qu'il faut passer devant le juge, donc personne ne ferait ça juste pour le sport.
C'est un débat qui crispe autant qu'il révèle. D'un côté, Mickaël voit une mode qui passera, de l'autre, ces jeunes qui voient un enjeu. Beaucoup de maladresse dans tout ça, mais entre les deux, l'écart d'un vieux monde qui s'accroche face à un avenir qui se dessine.
Anaïs Boyon, notre invitée, a failli s'évanouir durant la première partie de l'émission. Et heureusement, à la fin, il y a eu un témoignage qui vous a redonné espoir. Mais ça veut dire aussi que la pédagogie autour de la transphobie, on est au balbutiement du truc, quoi.
C'est majeur. Encore une fois, ce micro-trottoir, il est exceptionnel. Je pourrais réagir dessus jusqu'à demain, donc je vais essayer de faire court. Mais il y a trois choses que ça m'inspire. On est toujours, et je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, on est toujours sur cette question de l'avantage physique, hein, complètement dépassée. Ça me permet de vouloir répondre à des personnes interviewées, que l'égalité génétique n'existe pas. Il y a parfois plus de différences entre un homme et une femme. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue que j'éclate Mathieu Noël au squash, par exemple.
Voilà. Vous êtes convaincue de ça?
Absolument.
Rendez-vous est pris la semaine prochaine.
Et ensuite, c'est une petite anecdote qui m'a beaucoup marquée et qui pourra peut-être faire réagir les auditeurs et les auditrices. C'est que en Angleterre, la fédération nationale, la fédération anglaise de rugby avait décidé d'imposer des mensurations, des normes morphologiques à son équipe de femmes pour lutter contre l'inclusion des femmes trans. La moitié de l'équipe de rugby dépassait ses mensurations. Des femmes cisgenres.
Ouais.
Donc voilà.
Moi, je pense à Violette Maurice quand vous parlez de ça. Je sais pas si vous
connaissez. Ah oui, non. Ouais, je travaille sur
Violette Maurice, qui était une femme très grande, ouais. Et qui a battu plein d'hommes dans plein de compétitions.
Absolument.
En 1920, je crois.
1927, le bol d'or, la course automobile.
Exactement. Et elle était, on prenait ses mensurations avant qu'elle monte dans l'auto.
Absolument, absolument. Ouais. Et puis en plus, elle n'a pas aidé parce qu'elle a procédé à une double mastectomie pour mieux lancer le poids et conduire.
Est-ce qu'il y a quand même des fédérations, parce qu'on parle de fédérations sportives, qui sont aujourd'hui plus progressistes que d'autres? Vraiment, ça n'existe pas.
Alors oui, il y en a une que j'aimerais citer, c'est la fédération de roller derby, est absolument reconnue comme un sport exemplaire dans l'intégration des personnes transgenres et non-binaires, et on voit que tout se passe bien. Il a été pensé, ce sport, pour les femmes et les minorités de genre. Il accueille plus de 70% de pratiquants qui sont des femmes et des minorités de genre, et ça en fait un espace inclusif unique. C'est la seule pratique sportive en France à permettre aux joueurs.
Mais est-ce que c'est aussi parce que, pardon, mais c'est aussi un sport où il y a quasiment pas d'hommes. Du coup, ça aide.
Il y a des hommes trans. Oui, c'est vrai qu'on va dire plutôt quasiment pas d'hommes cisgenres. Certes, oui, ça doit aider, mais en fait, ce qui est intéressant dans le roller derby, c'est que c'est un sport de contact. Mmh. Et on voit bien qu'il n'y a pas de problème d'enjeu de sécuritaire, comme on a tendance à pouvoir le dire dans les autres sports. Voilà. Donc c'est à mon avis un exemple à regarder et à prendre. Ouais.
Je vous voyais un petit peu grimacer quand même sur ces deux jeunes gens que j'ai eus à la fin. Alors vous disiez que ça évolue, on sent que ça évolue, mais vous vouliez reprendre peut-être deux, trois choses qu'ils ont dit, des maladresses peut-être.
Ouais, j'aimerais rappeler, j'ai l'impression que c'est une évidence, mais ça l'est pas visiblement, que la transidentité n'est pas un choix, de la même façon que l'orientation sexuelle et l'homosexualité n'est pas un choix. Et en fait, j'ai l'impression que les gens pensent que, alors désolé Mathieu, j'ai rien contre vous, mais que demain, Mathieu a envie de participer aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde de squash, parce que ça va être au JO en 2028, et puis il va se faire appeler Chantal, et puis il va essayer. Enfin, c'est ahurissant, ces fantasmes, ces légendes, ces rumeurs, la façon dont on pathologise, on objectifie les personnes trans, on les essentialise. La transidentité n'est pas un choix. C'est des parcours de vie, alors ça a pu être dit dans votre micro-trottoir, et je le répète, des parcours de vie terribles, si vous regardez les femmes trans sont les premières victimes de féminicides et de violences sexistes et sexuelles dans le monde et en France. Enfin, voilà, c'est ce que j'aimerais rappeler en disant que c'est pas un choix. Et les femmes trans qui arrivent et qui sont mais tellement peu nombreuses à exceller dans le sport de haut niveau, c'est des femmes, à mon sens, juste exceptionnelles et qui ont une force mentale et des déterminants psychologiques qui dépassent l'ensemble du commun des mortels.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Que j'ai aimé ce début de saison, mes amis.
La fiesta, la fiesta.
Fini, fini les réveils à 4h du matin et les sandwichs triangles avalés sur un coin de bureau. Et quelle programmation, les bringueuses, la mexicanisation et même Patrick Sébastien, orgie de feel good. Bye-bye le Zoom Zoom Sum, enfin du Zoom Zoom 100% zen. Quand soudain, le drame, tracé en quelques lettres sur un tableau blanc, jeudi 4 septembre, transmisogynie. Les premières secondes, génie et l'évidence. J'ai demandé à Cyril, c'est bien un sujet sur les trains de luxe, Cyril. Hein, la transmisogynie, c'est un genre de transsibérien, c'est ça? Non, Mathieu, pas de train, pas de wagon, il s'agit d'une émission sur le sort réservée aux femmes transgenres dans le sport. Vous l'aurez compris, cette quatrième saison de Zoom Zoom Zen n'est donc pas que la saison du kiff, c'est aussi celle de la maturité, à l'instar de l'album Vivre de Kenji Girac. Qui ne passe pas assez sur France Inter. Voilà pourquoi on en écoute quelques secondes.
Mais comment vous êtes tombé là-dessus?
C'est un cadeau que je vous fais. Alors là, on embrasse Gérald Darnaud.
Ah, d'accord. Ouais.
Gérald qui m'aide sur le quiz et qui est un grand fan de Kenji. Afin, un homme de goût, afin de respecter donc les fondamentaux du gay savoir pour traiter de la transmisogynie dans le sport qui malheureusement existe, nous allons consacrer ce quiz aux disciplines olympiques qui, elles, heureusement, n'existent plus. Remontons tout d'abord en 1900. Cyril Lacarrière finit son stage au journal Le Petit Matin de Paris. Et c'est lui qu'on envoie couvrir les épreuves phares des Jeux Olympiques qui se déroulent cette année-là dans la capitale. C'est en tout cas ce que le rédacteur en chef du journal lui annonce avec un rire guttural et un gros cigare dans la bouche. Quelques heures plus tard, bardé d'un appareil photo de 17 kilos qui explique que son dos ne soit plus aujourd'hui qu'une compote de vertèbres, Cyril se présente avec sa petite accréditation pour couvrir une épreuve effectivement assez phare des Olympiades. S'agit-il du tir au pigeon vivant? De la tente de caniche?
Quoi? De la quoi?
De la tente de caniche. Bzz, ou du lancer de nain au miel.
Ah.
Bah, le lancer de nain au miel, c'est pas ça.
AB.
Moi, je vais mettre B, moi. Juste B.
AB.
Vous dites lancer de nain AB. Pensez qu'en 1900, il y avait une épreuve de tente de caniche aux Olympiques.
Non, je reviens à A.
Oh, c'est dommage, vous auriez marqué un point, puisque c'était A et B, effectivement. Quel dommage, Manon. Inoubliable, édition de 1900. L'épreuve de tir au pigeon verra la victoire du Belge Léon de Lunden avec 21 cibles trucidées et un total de 300 oiseaux sacrifiés sur l'autel de la performance. Moins mortelle mais tout aussi festive, la tonte de caniche a rassemblé 128 athlètes devant tondre le plus de yinches possible en deux heures.
T'aurais pu gagner pour le pigeon.
Bah,
avec
moi
le
je le fais sans armes.
Oui.
C'est vrai, ça aurait gagné. 17 caniches tondues, c'est la légende de la tonte de yinches. Avril Lafoule qui remporta le titre cette année-là. Des jeux décidément précurseurs puisque plusieurs compétitions de natation se déroulèrent dans la Seine cette année-là. Là, je rappelle qu'on est alors en 124 avant Oudéa Castéra.
Ouais, attention,
un bien beau moment de
premier,
sport offert par Madame la Ministre. Mais pas aussi beau qu'en 1900, la médaille d'or de l'Australien Fred Lane remportée sur l'épreuve reine du 50 mètres planche, 100 mètres bouée ou 200 mètres avec obstacle.
B.
C.
Alors, c'est-à-dire, Manon, une bouée. Il a une bouée autour de. Il saute dans l'eau avec une petite bouée canard.
Ah, ce serait.
Et il essaie d'avoir. Ils ont tous une bouée canard.
C'est ça. Non, mais j'ai pas compris l'intitulé.
Je vous dis, c'est fou, donc c'est peut-être ça. Vous avez la réponse. Bonne réponse de Quentin, lui. Il s'agit jeté du 200 mètres avec obstacle. Tiens-toi bien, Léon Marchand. En 1900, la natation, ça avait une autre gueule que tes petites longueurs d'effets épilées au Moulbit Arena. Sur le 200 mètres avec obstacle, les concurrents devaient grimper sur un poteau, enjamber plusieurs bateaux avant de passer sous la coque d'une péniche. Tout ça donc dans la Seine, un enfer selon les historiens du sport, une promenade de santé à côté du Cap Vert selon Pierre Courade. Alors, aussi excitante que soit la natation avec obstacle, sachez que le comité olympique a décidé de ne pas renouveler cette épreuve lors des Olympiades suivantes, mais le CIO s'est rattrapé en 1908 en intégrant à la liste des sports officiels l'épreuve du tir au pistolet. Qui consiste en quoi ? Simuler un duel en tir de précision sur un mannequin de forme humaine ? Se tirer dessus avec des balles de cire ou se tirer dessus avec des brèves astos et espérer survivre.
C'est.
Oui, quand on est en 1908.
Allez.
Voilà, on ose quoi, on se tire dessus. C'est une bonne réponse de Manon Ariani. Évidemment, la réponse B, je précise, il portait un équipement de protection pour le torse, le visage et les mains. Mais il y a quand même eu un concurrent qui a renoncé à la protection de la tête. Il préférait s'appuyer sur le code d'honneur du gentleman qui interdisait de viser la tête. Grand mal lui en a pris puisque vous en doutez, la première balle vint immédiatement lui crever l'œil.
Oh non.
Évidemment.
Oupsi.
Déclara son adversaire, le français Cyril Lacarrière.
Mais il était un peu bête.
Restons à Londres en 1908 car une autre épreuve insolite s'y est déroulée. S'agit-il du saut en largeur, qui n'est pas ouf en termes de spectacle.
Du saut en largeur.
De l'aquaponie, qui n'est pas une légende urbaine.
L'aquaponie.
Ou du polo à vélo, qui n'est même pas une légende urbaine parce que c'est vraiment trop con.
C'est.
Oh.
Je suis devant.
Non.
Je suis devant. Non, il a décrété, il a raison, il est devant. Réponse C, bonne réponse. Du polo à vélo. Et pour votre gouverne, sachez qu'il y a même, une Coupe d'Europe des clubs de cette discipline, aujourd'hui encore, remportée 5 années de suite entre 2011 et 2016 par le club des pédales Varangevillaise. Petite info que je glisse au passage à Quentin, spécialiste de la France de nos régions. Vive la Normandie, vive le sport. Et victoire malgré tout de Manon Marais.
Et malgré tout, forcément, avec 2 points d'avance, c'est facile.
Les sportifs transgenres sont-ils des sportifs comme les autres ? La sociologue du sport à la faculté des sciences du sport et de l'université Paris-Saclay, Anaïs Boyon, est avec nous pour décrypter le problème de la transmisogynie dans le milieu sportif. Anaïs, est-ce qu'on pourrait imaginer des compétitions intersexes où il faudra quand même toujours dissocier hommes et femmes ? Est-ce qu'il y a déjà des compétitions intersexes ?
Alors, je ne parlerai pas d'intersexes parce qu'on pourrait penser que ça serait
la formulation est maladroite.
Voilà. Des compétitions mixtes ou non mixtes.
Mixtes.
Voilà. Alors, il y a 3 disciplines olympiques qui sont mixtes au JO, hein, donc le tir, la voile et l'équitation. Donc ça, ce sont les seuls au niveau olympique. Après, vous avez des disciplines qui ne sont pas olympiques, comme, je crois, l'ultimate, c'est une sorte de frisbee, etc. Vous en avez, mais tout le monde s'en fout, puisque ce n'est pas des disciplines olympiques, donc ce n'est pas des disciplines médiatisées, et personne n'en parle. Pour répondre à votre question, il faut également ne pas penser mixité à haut niveau. Pourquoi ? Parce que les femmes ont un siècle de retard dans la mise en mouvement de leur corps. J'ai fait, donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'ai fait mon doctorat en étudiant l'accession des femmes aux activités physiques et sportives de 1880 à 1922. Et qu'est-ce que je montre ? Je montre que l'accès des femmes aux activités physiques et sportives est jalonné de pathologisation, de freins, d'interdits, d'euphémisation, de désportivisation. Ça passe, et surtout, une réification de leur infériorité biologique. Pourquoi je dis ça ? Ça passe par le matériel. Elles vont lancer 4 kilos au lieu de 7 kilos. Ça passe par les disciplines interdites. Elles n'ont pas pu faire de football à haut niveau pendant des années, etc. etc. Et donc, c'est une comparaison impossible, et cette volonté, ça serait une grande injustice pour les femmes. Elles ont un siècle de retard d'interdits, de pathologisation, de sexisme à rattraper. Donc non, il ne faut pas penser la mixité à haut niveau, j'entends.
Mais alors, en revanche,
mettre en mouvement les corps des petites filles et des ados de la même façon, bosser cette mixité, interroger cette mixité dès le départ, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. On a un siècle de retard, mais si vous voulez, ça ne suffira même pas d'envisager la mise en mouvement de leur corps de manière mixte. Il faut lutter contre le sexisme et la pathologisation de leur corps dans la vie de tous les jours qu'elles se prennent. L'accès à l'alimentation, voilà, tout est lié.
Dans les clubs club amateur. Est-ce qu'on pourrait commencer par ça?
Ah, bien sûr.
Moi, comment ça se passe déjà en ce moment?
Ça dépend des clubs.
Ouais.
C'est hyper diversifié. Mais il y a certains clubs qui permettent à des jeunes filles de faire du foot avec des jeunes garçons. Ça arrive. La problématique, c'est la puberté. Souvent, à nouveau, on essentialise la puberté et on estime que... Moi, je l'ai vécu d'ailleurs. Ouais. À partir du moment où on devient pubère, on va un peu démixer. Et moi, j'ai toujours posé la question de pourquoi on ne permettrait pas aux femmes, malgré la puberté, de pouvoir se mesurer à la norme dominante, donc la masculinité, aux hommes, pour pouvoir accroître leur performance ou continuer à augmenter leur performance. Moi, je n'ai jamais été aussi bonne au squash que depuis que je m'entraîne contre des hommes. C'est débile, mais c'est vrai, c'est une réalité. Et je progresse, donc voilà.
On parle des femmes transgenres depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a la même discrimination envers les hommes transgenres dans le sport?
Alors, c'est une excellente question. Non. Alors, j'avais prévu ma réponse et je la cherche. Non. Pourquoi ? J'y viens. De la même façon que les femmes trans dans le monde du sport ne sont jamais considérées comme des femmes, donc comme des hommes, et donc voilà la flemme, les hommes trans ne sont jamais considérés comme des hommes, et donc on n'y voit pas un danger, on n'y voit pas une préoccupation, tout le monde s'en fiche, car on les renvoie à leur sexe assigné à leur naissance. Et c'est quoi ce sexe? Il est considéré, je viens de le dire, nul, faible et dominé. Donc, on est encore dans la représentation, il reste dans la représentation de la catégorie dominée et dans une catégorie à laquelle on a assigné des caractéristiques moindres.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure d'écouter la pièce jointe de Manon Mariani.
Aujourd'hui, un comité, il s'appelle le Comité Olympique et Paralympique des États-Unis, et c'est tout simplement l'organisme qui supervise la participation américaine aux JO. C'est le premier comité, je le précise, au monde à avoir inclus le mot paralympique directement dans son nom. Son rôle, coordonner près d'une cinquantaine de fédérations sportives nationales, financer les athlètes et représenter les États-Unis auprès du Comité International Olympique. À sa tête, il y a le président Ginny Sykes, un ancien homme d'affaires passé notamment par Goldman Sachs, et cette directrice générale, Sarah Hirschland, ancienne directrice commerciale de l'Association américaine de golf. Et cet été, ce comité a donc fait parler de lui, car en juillet 2025, il a discrètement modifié son règlement pour interdire les femmes transgenres de concourir dans les catégories féminines. Tout ça part d'un décret signé par Donald Trump quelques mois plus tôt, intitulé « Keeping Men Out of Women's Sport », en clair, garder les hommes hors du sport féminin. Ce texte fédéral menace de couper les financements aux organisations qui ne respectent pas la consigne. Le comité s'est donc plié à cette ligne politique. Il s'est justifié dans une note adressée à l'équipe olympique américaine.
Qui dit quoi ?
Eh bien, il dit qu'en tant qu'organisation à charte fédérale, il a l'obligation de se conformer aux attentes fédérales et que leur politique met l'accent sur l'importance d'assurer un environnement de compétition équitable et sécurisé pour les femmes. Le comité dédié aux athlètes, donc, se retrouve à appliquer une mesure imposée par le pouvoir exécutif au détriment d'une partie des sportives. Résultat, des associations de défense des droits LGBTQIA+, dénoncent une mesure purement idéologique. Le collectif Lambda Legal a par exemple parlé de lâcheté personnifiée. Le National Women's Law Center accuse le comité de sacrifier les athlètes trans pour un décret tout simplement transphobe. Et la controverse ne fait que commencer, car en voulant se mettre en conformité avec la Maison Blanche, le comité a ouvert une brèche, celle d'un sport olympique américain qui exclut pour la première fois toute une catégorie d'athlètes.
Merci Manon. Anaïs, est-ce que le comité olympique aurait pu refuser se conformer au décret de Trump ?
Oui, parce qu'ils sont indépendants, oui, absolument.
Donc là, c'est faux quand ils disent qu'ils étaient dans l'obligation de le faire.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Il est certainement l'esprit le plus critique au sein de l'équipe de Zoom Zoom Zen. Le plus pervers aussi, diront ceux qui l'ont croisé en backroom le jour où il était sorti déguisé de l'expo Cléopâtre. La story Insta qu'il avait publiée à cette occasion hante encore la mémoire de ceux qui ont été confrontés, Pierre se refusant à activer l'option amis proches, ce qui permettrait pourtant de ne pas traumatiser à vie le public non averti.
Désolé,
Pierre,
Mathieu.
L'heure est venue de nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono, s'il vous plaît.
La transmisogynie dans le sport, c'est la discrimination qui touche les athlètes femmes transgenres. La transmisogynie existe malheureusement dans tous les secteurs de la société, mais cet après-midi, on a zoomé particulièrement sur le cas de ces femmes après le scandale suscité par les prises de position conservatrices aux États-Unis à l'égard de Abby Hernandez, une jeune athlète née dans le corps d'un homme. Sa participation au championnat californien a provoqué la colère de Donald Trump, une affaire emblématique du malaise de certaines instances sportives sportive vis-à-vis des femmes trans. C'est ce qu'est venu nous expliquer Anaïs Beauhuon, sociologue du sport. Pire qu'un malaise, un backlash terrifiant pour elle. En effet, depuis quelques jours, la Fédération internationale d'athlétisme a remis au goût du jour des tests génétiques dans les compétitions officielles dans le but d'écarter les femmes trans. Un sérieux retour en arrière, surtout quand on sait que le Comité international olympique a lui pris des mesures pour plus d'inclusion des femmes trans dans le sport. Preuve qu'être une femme trans n'est en aucun cas un avantage, ce qui n'empêche pas les tests de féminité de se multiplier, notamment dans la boxe. Notre invité parle de panique morale et rappelle à toutes fins utiles que changer de sexe n'est jamais un choix.
Merci beaucoup Pierre Courade, j'aime quand c'est précis, efficace et surtout dénué de vannes graveleuses. Merci beaucoup Pierre, et pour continuer de vous offrir peut-être un autre regard sur la transmisogynie dans le sport, nous recevons Mary White, qui est une tradwife.
Oui, alors bonjour, Mary White, à ne pas confondre avec Barry White, hein. Lui c'était un homme et moi je suis vraiment blanche. Je suis mariée, 4 enfants et j'ai fait des tartes, d'ailleurs vous voulez de la tarte ?
Merci Mary, avant de commencer, plutôt, c'est quoi une tradwife ?
C'est une épouse qui s'occupe réellement de son mari et de son foyer, qui est à l'écoute de son mari. Enfin, pour faire simple, je gère toute la maison et mon mari, lui, me dit si je le fais bien. C'est ce qu'on appelle une équipe, comme dans le sport, n'est-ce pas ? C'est vrai, Anaïs, on est loin. En fait, ici, on est là pour prendre soin de son mari. Je suppose que vous aussi, hein. C'est comme le but des femmes sur Terre. Vous voulez de la tarte ? J'ai fait de la tarte. J'en ai fait que 3, malheureusement.
Alors, merci Marie, mais vous venez nous parler, je crois, de votre association.
Oui, tout à fait. Donc, je suis la marraine de football et armes à feu dans notre quartier de Levallois-Perret. Les enfants, exactement, jouent au foot et les adultes tirent, parce qu'on adore tirer. J'adore tirer. Vous aimez tirer, Anaïs ? Vous êtes la bienvenue dans notre association, en tout cas. En fait, on accueille absolument tout le monde, les transsexuels, les bisexuels, les asexuels, les homosexuels, les pauvres, terribles maladies. Je les garde, hop là, signe de croix. Mais tout le monde est le bienvenu dans notre association, des normaux jusqu'au moins. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle copine qui a rejoint l'association, Nathalie, qui est une femme trans et qui se plaint depuis sa transition. Elle me dit oui, je me fais siffler dans la rue, oui, on me met des mains au cul, on a baissé mon salaire. Et je lui dis Nathalie, tu es une femme maintenant, il va falloir t'endurcir. Et puis entre nous, Nat, tu pouvais choisir tous les prénoms que tu voulais. Pourquoi Nathalie ? Il faut dire les choses entre copines. Et en fait, Nathalie, si elle a rejoint l'association, c'est parce qu'en fait, à la base, elle aurait voulu faire du foot. Bah Nat, non, tu es tellement naïve, Nat, tu es tellement une femme, bien joué. Non, écoutez, comme dit mon mari, le terrain de foot des femmes, c'est la cuisine. Non, c'est vrai, parce qu'ils ont mis des matchs de foot à la télé, des matchs de foot féminins. Est-ce que les femmes regardent ? Bien sûr que non, parce qu'à 21h, la table, elle ne se débarrasse pas toute seule. J'ai oublié de vous dire, j'ai aussi fait des tartes sans gluten pour les intolérants. J'adore les intolérants. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des intolérants. Non. Ah bah, voyez ma copine Nathalie, trans, mais intolérante. Elle déteste les noirs. Alors que moi, non, vraiment, j'ai aucun problème avec les racismes. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'ailleurs, dans notre association, football et armes à feu, donc, je m'occupe de faire les maillots de foot de l'équipe. Enfin, les mamans ont fait ça, hein, c'est pas les papas qui vont chacun son rôle. Et typiquement, dans l'asso, on a un petit garçon, fille trans, gentil en tout cas, comme il faut. Il s'appelle Dylan, hein, Dylan. Et bon, d'ailleurs, il pouvait choisir tous les prénoms qu'il voulait. C'est autre chose. Mais moi, je l'accepte, Dylan. Hein, je mets son maillot. Je lui donne quelle couleur à son maillot ? Rose, bleu, je ne sais pas. Donc, on ne sait plus. C'est vrai. Donc, j'ai fait violet. Mais violet, tout le monde le sait, c'est moche. C'est pas bien. Et je dis d'ailleurs tous les soirs à mon mari, violet, c'est pas bien. Ce que je dis, non, c'est qu'il faut accepter les femmes. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Il faut accepter les femmes transsexuelles partout. Attention, parce que l'autre jour à l'école, on a invité des transsexuels pour parler de sexualité et des drag queens. Et là, moi j'ai dit non. Alors là, je dis pas souvent non, mais là j'ai dit non. Parler de sexualité à l'école, non mais alors, et pourquoi pas leur apprendre le consentement aux enfants aussi, hein, ils vont faire comment après nos prêtres si les enfants apprennent à dire non, voilà, il faut se poser les vraies questions.
On se les pose avec vous, merci beaucoup Lisa Perriot. Ce qui vous trahit, vos auditeurs doivent savoir que vous n'êtes pas une vraie tradwife, c'est que vous n'avez pas fait cette tarte vous-même.
Si.
Comment ça si?
Je l'ai achetée.
Oui, vous l'avez achetée, voilà, On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Lisa, merci beaucoup, merci Anaïs Beauhuon d'être venue nous expliquer le problème de la transmisogynie dans le sport. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le test de féminité dans les compétitions sportive, et je crois que vous avez un dernier mot.
Oui, absolument.
un dernier mot très court. Dites-vous que si vous acceptez que les femmes trans sont des femmes, il faut les accepter aussi dans le sport. Et ensuite, il y a une thèse de Lucie Palaisi que j'encadre en doctorat qui va être soutenue le 7 novembre à l'Université Paris-Saclay sur transidentité et sport de compétition. Et elle vous mâche le travail. Et elle vous mâche le travail. Elle s'est tapée toute la revue de littérature biomédicale sur ces questions-là. Zoom, zoom, zen.